J'ai eu à cœur quand même de présenter quelques éléments de l'Église persécutée, mais qui est triomphante malgré tout dans ces pays musulmans. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire qu'un des premiers versets qui m'a touché quand j'étais jeune converti il y a maintenant 37 ans, c'était la parole du Seigneur où il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et puis je me suis dit « Comment ça se fait que cette évangélisation, ce n'était pas en fait une option pour l'Église, c'est un ordre du Seigneur. » Et pourtant, il y a certains pays dans le monde qui n'ont pas été touchés par l'Évangile. Et j'ai trouvé en fait, quand on regarde parcours les actes des apôtres, que des fois, il peut y avoir des barrières culturelles, des barrières sociales, et toutes sortes de barrières qui peuvent empêcher le chrétien, né de nouveau, d'aller vers l'autre. Donc j'espère ce matin vous encourager d'aller vers les musulmans. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel, je crois. Pour moi-même, c'était impossible. Pour mes amis, personne ne peut croire qu'aujourd'hui je suis pasteur et même missionnaire auprès des musulmans, parce qu'ils m'ont connu avant. Mais pas impossible à Dieu. Impossible aux hommes, mais pas impossible à Dieu. Donc on va voir un autre passage qui est en fait d'une part une promesse du Seigneur Jésus dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er. Qui complète l'ordre du Seigneur dans Matthieu 28. On ne va pas lire tout le passage parce que le temps est un peu court ce matin, mais juste lire le verset 8. Le Seigneur Jésus dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà ici, d'une part, il y a une promesse du Seigneur, et puis aussi un ordre du Seigneur pour l'Église. Donc, c'est le Saint-Esprit qui devait être reçu pour une mission, être témoin de Jésus. Où ? À Jérusalem. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut revenir à Jérusalem ? Peut-être votre Jérusalem, c'est votre foyer, peut-être c'est votre quartier, votre travail. Hein? Puis dans toute la Judée, ça peut être tout le département, pourquoi pas. La Samarie, peut-être c'est les régions où c'est les étrangers, les personnes qu'on n'aime pas côtoyer. Hein? C'est les Samaritains, ils n'avaient pas de relation avec les Juifs. Et puis jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand cet ordre a été donné à l'Église, mais très tôt, l'Église s'est développée. Mais elle a stagné en fait. Elle est restée à Jérusalem. Et puis il y a eu quelques problèmes culturels. On voit qu'au chapitre 6, donc, il y avait les Juifs donc, de la diaspora, ce qu'on appelait les hellénistes, n'étaient pas très contents de la manière de la distribution des repas, des choses pour leurs veuves. Il y avait apparemment un favoritisme. Elles étaient négligées. Et puis, le Seigneur a permis qu'il y ait, en fait, une solution. Parce que l'Église a failli exploser, très tôt, hein, au chapitre 6. Et puis après, une fois que la solution a été trouvée, mais l'Église était restée à Jérusalem. Elle s'est développée, il y a eu des milliers de personnes qui sont converties, mais il n'y avait que des Juifs. Puis après, donc au chapitre 8, après donc, le martyr d'Étienne, mais il y a eu une persécution. Et là, l'Église, en fait, était obligée de quitter Jérusalem, de partir en Judée, en Samarie, même dans mon pays, le Liban, il y a eu même à Chypre, et puis même à Antioche. Et on s'aperçoit en effet que les Juifs donc de Jérusalem avaient du mal à présenter l'Évangile aux païens. Et on comprend en effet, au chapitre 10, où Pierre lui-même a dû avoir une vision, et par trois fois, le Saint-Esprit lui demande de tuer et de manger. Il dit « Seigneur, mais moi, j'ai jamais mangé halouf, hein. Je n'ai mangé que halal. Hein. » Et puis, il va comprendre, en effet, à travers cette vision, que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il aime tous les peuples, toutes les nations. Et à partir de là, il a compris qu'il faut aussi apporter l'Évangile aux non-juifs. Et c'était des chrétiens, en fait, d'origine juive, mais de l'Afrique du Nord, de la Cyrène, au Cyrénaïque, et aussi de Chypre, qui ont annoncé les premiers l'Évangile aux païens grecs. Et là, il y a eu une première église constituée de juifs et de non-juifs. Et c'était vraiment une grande bénédiction, même pour l'Europe, puisque c'est grâce à cette église d'Antioche que l'évangile est arrivé en Europe. Maintenant, je veux m'arrêter sur le mot « recevrez une puissance ». Ce mot, en français, vient d'un mot, en fait, en grec, c'est un mot qui a donné le mot « dynamite ». Vous savez, le mot « dynamite », c'est en fait, c'était Nobel, hein, qui est l'inventeur de la dynamite, qui a maintenant, on parle des prix Nobel de paix, ainsi de suite. Mais au départ, c'est vrai, c'était pour faire des routes, pour faire des bonnes choses. Mais moi, dans mon pays, au Liban, on utilisait la dynamite pour tuer, pour faire la guerre, ainsi de suite. Mais on sait que, alors si Seigneur Jésus a donné le Saint-Esprit pour l'Église comme une puissance, même une dynamite, pour tuer quelque chose, tuer le péché en nous, détruire le mal en nous. Et là, c'est très important, en fait. Et là, le mot qui vient après, donc vous serez mes témoins, c'est un mot grec qui a donné le mot martyr. Et là, on peut revenir à la persécution. Le mot témoin, être témoin de Jésus, veut dire être martyr. C'est étonnant. Mais en arabe, vous voyez, c'est un mot qui est très proche, je dirais, dans le sens, au mot grec. Vous voyez, moi, dans mon quartier à Beyrouth, il y avait plein de photos avec les martyrs. Et c'était des shahids, shuhada. Le mot en arabe, shahed, témoin, c'est la même racine que le mot shahid, martyr. Vous voyez, nos amis musulmans ont compris qu'il faut vraiment, pour plaire à Dieu, il faut, n'est-ce pas, mourir. Mais ils ont mal compris. Eux, ils ont voulu mourir pour tuer un maximum de monde. Le Seigneur Jésus nous demande de mourir à nous-mêmes, mourir à soi-même. Et ça, en fait, le secret de pouvoir être témoin de Jésus-Christ. Si nous voulons que des personnes autour de nous, des Français, des étrangers, viennent à l'Évangile, il faut vivre Christ. Paul dit, n'est-ce pas, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, hein, je vis, n'est-ce pas, aussi dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, est-ce que aujourd'hui, nous sommes en France, ce n'est pas très difficile, hein, de se convertir. Même un Français qui se convertit à l'islam, il n'a rien perdu. Un musulman qui vient à l'Évangile, c'est plus difficile. Parce que quand même, il y a des risques, hein, d'être martyr. Et dans leur pays, souvent, et surtout en Arabie Saoudite, où il y a l'application de la loi islamique, un musulman qui change de religion, vous voyez, il est passible de la peine de mort. Alors, vous voyez, simplement pour vous dire ce que Jésus attend de nous. Est-ce que nous vivons cet ordre du Seigneur Jésus? Nous voulons être témoins, mais vivre comme les martyrs, mort à soi-même. Renoncer, en fait, à soi et se charger de sa croix et suivre Christ. Alors, dans la parole de Dieu, il y a Jésus lui-même nous a enseigné comment être témoin d'une manière pratique. Alors là, je veux vous lire un passage bien connu et que j'ai retrouvé d'une manière extraordinaire dans la ville. Vous voyez, il y a une ville en Allemagne qui est juste à côté d'une ville en Autriche qui s'appelle Salzbourg. Je ne sais pas si ici on est à Hasbrook. Peut-être que vous connaissez un peu l'allemand. Salzbourg, ou Salzbourg plutôt, hein, c'est une ville où il y a beaucoup de sel. Et à côté, donc en Allemagne, il y a une ville où il y a des mines de sel. Et on a visité cette mine de sel. Et à l'entrée de cette mine de sel, il y avait, tiens, un verset biblique qui était affiché. Ça m'a vraiment touché. J'ai dit, tiens, les Allemands, mais ils ne sont pas si laïcs que ça. Ils osent afficher un verset biblique à l'entrée d'une mine. Et ce passage, on le trouve dans les évangiles, dans Matthieu au chapitre 5. Et c'est le verset 13. Et c'est le Seigneur Jésus dit, n'est-ce pas, vous êtes le sel de la terre. Mais il y avait ça, hein, sur la mine, l'entrée de la mine en Allemagne. Et le Seigneur rajoute, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà ici, donc quand on pense à chez nous, donc vous êtes le sel de la terre, peut-être à Salzbourg, ils savent l'importance de la sel, du sel. Parce que les villes les plus riches, vous voyez, en Allemagne ou même en Autriche, c'est là où il y a le sel. Parce qu'à une époque, il y avait la monnaie en sel. Et en arabe, vous voyez, le mot sel veut dire mlech. Alors quand on dit à quelqu'un, en Orient je parle, comment vas-tu? Quand il dit mlech, c'est je suis salé. Hein? Ça veut dire je veux bien. Alors, est-ce que vous êtes salé ce matin, mes frères et sœurs? Vous êtes mlech. Et chez les Nord-Africains, ils disent la basse, pas mal. Hein? Mais voilà, ce que le Seigneur nous demande, pas simplement d'être pas mal, mais d'être mlech. Il veut qu'on soit le sel de la terre. Alors, dans un sens, je dirais, biblique, que même pour ces premiers disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils pouvaient comprendre quand il leur dit « Vous êtes le sel de la terre ?» C'est sûr, Jésus parle de suite, c'est-à-dire de la cuisine, il parle de la saveur du sel. Et là aussi, un point très, très, très important, mes frères et sœurs. Vous voulez avoir un bon témoignage auprès des orientaux en général, et en particulier auprès des musulmans, il y a l'accueil, l'hospitalité. Souvent, en Orient, aussi bien en Israël, pour ceux qui ont été en Israël, peut-être ils le savent, aussi au Liban, quand on rentre dans une famille, on devient ami de la famille, on partage du pain et du sel. C'est le signe de l'amitié. Dans la parole de Dieu, on parle de l'alliance de sel. Même je vous donne des cours à l'IBG, mais il y a eu une alliance de sel avec l'Institut biblique, avec plusieurs églises de France. Alliance de sel, c'est quelque chose qui est fort. Et dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit en effet, concernant le martyr. Si je reviens être témoin, comme celle de la terre, on voit cette image dans le livre des Lévitiques, au chapitre 2, le verset 13. Il est dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Donc le sel doit être utilisé, vous voyez, dans les sacrifices. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. Donc l'idée du sacrifice. L'apôtre Paul, dans le chapitre 12 des Romains, qu'est-ce qu'il dit? C'est une exhortation, encore pour nous ce matin. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir son corps au Seigneur. Être celle de la terre, voyez, s'offrir à Dieu d'abord, son corps en entier. C'est-à-dire nos pieds, nos mains, nos membres. Les pieds, c'est important pour venir au culte. Pour certains, aujourd'hui, on prend les voitures. Mais à l'époque, il fallait aller à pied, ou sur un cheval, ou sur... Mais il faut aller vers les autres. Quand Jésus dit « allez, allez, allez », apporter l'évangile, apporter le témoignage. Il faut se servir des pieds. Les mains, vous savez, on peut ce matin offrir au Seigneur nos mains pour jouer des instruments de musique. Mais aussi, on peut écrire, n'est-ce pas, des lettres pour des prisonniers ou des cantiques. On peut faire des jolis dessins. Aussi, on peut donner des traités. On peut donner un coup de main à quelqu'un, pas un coup de pied, hein, un coup de main pour soutenir quelqu'un, pour aider quelqu'un. On peut visiter des malades, ainsi de suite. Ah, je vous laisse développer cette idée parce qu'on peut passer une heure dessus. Que le Seigneur vous aide à voir comment chacun peut offrir son corps, hein, comme un sacrifice vivant. Comme celle de la terre. Et c'est vrai que je parlais des pieds. En fait, il est dit aussi bien dans les Romains, et c'est une parole aussi d'Ésaïe, qu'ils sont beaux les pieds, n'est-ce pas, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Donc pour ceux qui aiment, n'est-ce pas, avoir des jolis pieds, hein, sont attachés peut-être à tout ce qui est beau, mais en allant, apportant cette bonne nouvelle, aussi bien aux perdus. Mais le Seigneur nous dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle. C'est vrai que les caractéristiques du sel sont énormes. Il y a beaucoup de choses à faire avec le sel. Alors, dans l'Épître aux Philippiens, il est dit, n'est-ce pas, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même, quand il nous dit « Vous êtes le sel de la terre », lui-même était le sel de la terre. C'est un exemple pour nous, un exemple d'humilité. Parce que le sel, vous voyez, pour qu'il puisse donner sa saveur, il faut qu'il fonde. Hein? Il faut remuer la soupe, hein, quand on met du sel. Sinon, après, ça ne va pas. Alors aussi, le sel, vous voyez, était utilisé à l'époque où il n'y avait pas des congélateurs, hein, pour freiner, je dirais, la corruption des aliments. Et là aussi, est-ce que nous sommes engagés dans la société. Comment voulez-vous qu'on soit témoin si on n'est pas engagé dans la société pour freiner la corruption? Est-ce qu'on est passif ou on est vraiment aussi, je dirais, disponible pour voir tout ce qui... On regarde déjà à la télé ou à la, on entend à la radio, des choses horribles, ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que la corruption s'arrête? C'est vrai, c'est la présence des chrétiens qui est une bénédiction pour la nation. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas très nombreux en France. Mais quand on pense aux premiers chrétiens, le défi qu'ils avaient, une poignée de croyants qui devaient annoncer l'évangile au monde entier. Vous voyez le poids que c'était pour eux, pas simplement à Jérusalem, où le peuple d'Israël encore était hostile en majorité, qui ont rejeté le Christ, qui l'ont fait crucifier, et après les premières persécutions, étaient vite là. Ils devaient annoncer l'évangile dans toute la Judée, là aussi le Christ a été malmené, dans la Samarie, où le peuple était hostile, déjà aux Juifs, puis aux païens, partout dans le monde entier. Voilà, c'est à travers le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. C'est la présence du Saint-Esprit qui nous donne ce zèle, qui nous transforme. Et pour lui, tout est possible. Des fois, il suffit d'une petite personne. Vous voyez, on voit dans la Bible plusieurs fois, avec un petit bâton de rien du tout, comment Moïse a accompli des miracles extraordinaires. Et des fois, avec la présence des enfants, ils savent l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Il suffit de quelques morceaux de pain, quelques pains, quelques poissons qu'on puisse mettre entre les mains du Seigneur. Donc, quelques poignées de croyants suffisent pour révolutionner tout un pays. Mais il faut le vouloir. Il faut d'abord se soumettre au Seigneur. Vous voyez, le mot « soumettre » veut dire, il faut être musulman dans le sens biblique. Le mot « musulman » veut dire « se soumettre ». Est-ce que nous, on est soumis à notre Seigneur ? Et puis, c'est vrai que dans la Bible aussi, le sel, il est utilisé concernant le témoignage. Dans la lettre de Paul aux Colossiens, c'est un passage vraiment très étonnant. Paul parle donc du témoignage qu'on peut rendre. Colossiens au chapitre 4. Les versets 5 et 6, il dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Le sel, vous voyez, comme je dis, le sel, c'est la convivialité, c'est l'amitié, c'est l'hospitalité, c'est l'accueil, même au niveau des paroles. Ce n'est pas des paroles mielleuses, il dit assaisonné de sel. Et voilà ici aussi donc, vous voyez, l'importance de voir toutes ces images que souvent, vous voyez, ma femme, quand, avant d'ailleurs qu'on se fréquente, elle avait une copine qui travaillait en Tunisie. Elle avait donné les coordonnées d'une Tunisienne qui est venue à Toulouse à l'époque, on était à Toulouse, et elle voulait que la visiter. Dominique, à l'époque, en tant qu'une bonne Française, elle avait des craintes, elle avait des peurs. Elle ne savait pas comment aller dans une famille musulmane. Et elle m'avait connu. Elle m'a dit, Antoine, tu ne veux pas m'accompagner? Je dis, pourquoi pas, avec plaisir. On parle l'arabe, on va aller dans cette famille. Et quand elle a été dans cette famille, mais tout d'un coup, vous voyez, elle m'a dit, en fait, comme un glaçon a fondu. Elle a vu l'hospitalité, l'accueil qu'on lui a réservé. Et après, elle a été libérée de cette peur. Il faut oser d'aller vers les autres. Souvent, il y a des peurs, parce qu'on ne sait pas comment les autres vont réagir. Des peurs de l'inconnu. Mais il faut aller vers les autres. Et ils sont très accueillants, eux aussi. Donc, vous-même, quand vous allez les inviter, ça va les toucher. Un Français qui m'invite, c'est assez rare. Ça arrive rarement. Mais voilà, il faut oser. Il faut aller chez eux, il faut les inviter, il faut lier des liens d'amitié. Et le sel, vous voyez, donc même dans nos paroles. Nos paroles soient assaisonnées de sel. Et puis, en parlant du sel, même au Liban, vous voyez, on a d'ailleurs le mot Liban, vous voyez, c'est un mot qui vient du mot Laban, qui veut dire le blanc ou le lait, parce qu'on avait les neiges éternelles à une époque. Maintenant, avec le réchauffement climatique, même au mois d'avril, il y a encore la neige. On a les montagnes à plus de 3000 mètres d'altitude. Et qu'est-ce qu'on fait pour aller d'une région à une autre quand il y a la neige? On met du sel pour faire fondre la glace. Donc, vous voyez, donc c'est important d'être aussi celle de la terre pour permettre aux personnes, vous voyez, de communiquer Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes dans les familles. Est-ce que le chrétien peut aller visiter des familles, même recomposées, même dans notre église, à Trèves, une petite église pionnière, on voit des personnes mariées, divorcées, tout cela, et puis ils viennent à l'évangile. Comment les aider? Et puis les autres aussi qui ont besoin de l'évangile. Être celle de la terre, mes frères et sœurs. Et puis, une dernière chose, bon, il y a beaucoup de caractéristiques au niveau du sel, mais souvent, je compare nos églises à une salière. Et une salière, vous voyez, si pendant un certain temps, vous n'utilisez pas le sel, même quand vous voulez remuer, ça ne sort plus. Hein. Donc, il faut être toujours en action. Hein. Il faut avoir l'habitude de sortir de nos salières pour apporter, je dirais, la bonne nouvelle du Seigneur aux autres. Et puis, pour terminer, vous voyez, quand on mange quelque chose de salé, qu'est-ce qui se passe? Ça donne soif. Est-ce que votre engagement donne soif aux autres de venir à la source d'eau vive qui est le Seigneur Jésus? Maintenant, l'autre image, vous êtes la lumière du monde. C'est vrai que cette parole peut nous choquer. Comment Jésus dit, mais vous êtes la lumière du monde, mais Seigneur, mais je ne peux pas être lumière du monde. Comment être celle de la terre? C'est à travers sa présence. Parce que lui-même, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et là, on voit en effet, pour être lumière du monde, il faut reconnaître qu'on n'est pas lumière par nous-mêmes. C'est on reflète la lumière du Seigneur. Vous voyez, comme la lune reflète la lumière du soleil. Mais aussi, on sait aujourd'hui que souvent, il y a une source, il faut se brancher pour avoir la lumière, hein, sur la source du courant. Et des fois, même on a des batteries, hein, il faut les charger, hein, avant de pouvoir... Et puis des fois, on se contente de nos réserves. Et puis quand on sort, tout d'un coup, il n'y a plus de batterie. Hein. Il faut être alimenté constamment. Et ça, c'est la relation personnelle et vivante, chacun personnellement, aussi en tant que communauté. Parce que Jésus dit, quand vous êtes le sel de la terre, il ne dit pas à chaque chrétien, c'est vrai, on est chacun. Sel de la terre, lumière du monde. Mais aussi l'aspect de la communauté. Et nos amis musulmans, vous savez, on vit en communauté. La culture, vous voyez, chez nous, on est très individualiste ici en Europe, en France en tout cas. Et ça, c'est un choc pour nous. Moi, qui viens du Liban, vous voyez, les Français, très individualistes. Mais pour les orientaux, on vit en communauté. Et c'est important d'apporter un témoignage communautaire, de voir comment ensemble vous pouvez vivre cet amour du Seigneur. Parce que Jésus, n'est-ce pas, dit, à ceux-ci tous connaîtront, vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est vrai, je n'ai jamais visité une église parfaite. Hein, ça n'existe pas. Ce sera au ciel. Mais déjà, il y a un avant-goût du ciel. Et l'église aujourd'hui qui vit cet amour, aussi, c'est dans le pardon. Quand on vit le pardon au quotidien, et ça, dans l'islam, vous voyez, il y a le pardon. Mais on ne sait pas comment on peut l'avoir. Comment on peut avoir la certitude du pardon. Pour pardonner, on essaie d'oublier, mais il y a un prix. Et c'est Jésus qui a tout payé. Pour nous, pour que nous puissions vivre réellement au quotidien le pardon dans nos relations les uns avec les autres. Donc, avoir la lumière, je dirais, du monde, être lumière du monde, c'est vrai, vivre cette relation vivante avec le Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous montre clairement dans l'épître de Jean, dans la première épître, dans 1 Jean, au chapitre 1er. Le verset 7, où Jean, qui est l'apôtre de l'amour, nous écrit ceci. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Vous voyez, vivre dans la lumière, nos relations ensemble, quand il y a un problème, on le voit de suite. Et là, on se demande pardon. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et ça, ça nous montre réellement être lumière de Christ, c'est quoi? C'est tourner nos regards vers lui. Lui qui est cette source. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que on regarde la croix, en fait. C'est de la croix. Hein, c'est la source de toute grâce, de tout amour, de tout pardon, de toute paix. Et on voit qu'il y a un poteau vertical. Ça nous montre en effet que nous avons chacun besoin de cette relation personnelle avec notre Dieu, par le Saint-Esprit, et aussi horizontal. Et ça, la relation les uns avec les autres. Vivre dans la lumière, c'est vivre la croix, hein, le martyr à nouveau. Et la lumière, vous savez aussi que dans le passé, il n'y avait pas des ampoules électriques. D'ailleurs, au Liban, même les ampoules électriques, vous savez, on appelait, à mon époque, hein, maintenant peut-être ça a changé, quand on voulait acheter une ampoule, disons 35 watts, on disait 35 bougies. C'était les bougies, c'était électrique, hein, parce qu'à l'époque, on parlait des bougies. À l'époque de Jésus, c'est quoi? Des lampes. Et pour que les lampes s'éclairent, il a fait une mèche. Et là, il y a aussi l'image du martyr. Il faut qu'elle se consomme, qu'elle se consume. Et qu'est-ce qu'il dit, en fait, Jean-Baptiste, en parlant de Jésus? Il faut qu'il croisse, que je diminue. Si vous voulez que votre lumière soit authentique, laissez Jésus prendre toute la place dans votre vie, dans votre cœur. Et les gens ne vont pas voir Antoine, Pierre ou Jacques ou Françoise ou Jacqueline. Ils vont voir Jésus. C'est ça qui est le plus important. Être lumière du monde, vivre en fait comme cette lumière qui doit être aussi cette, mèche pour qu'elle puisse éclairer. Il faut qu'elle soit plongée dans quoi? Dans l'huile, qui est l'image du Saint-Esprit. Donc, ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient du Seigneur. Donc, c'est cet amour que le Seigneur veut, en fait, que nous puissions avoir les uns avec les autres, mais aussi les uns pour les autres, même pour ma part, hein, c'était le défi, aimer même les ennemis. Et ça ne vient pas de nous. J'étais incapable d'aimer même des gens aimables, même des gens, je peux vous confesser, même de ma propre famille. Mais c'est le Seigneur qui a fait cette œuvre. Je ne suis pas parfait, hein, loin de là, mais c'est lui qui est cette source, qui nous donne la patience, comme lui-même il est patient, il nous donne la persévérance, ainsi de suite. Il y a une chose aussi importante pour nous, parce que je dirais, c'est vrai, comme j'ai parlé d'une batterie, pour la recharge de la batterie, il faut être branché sur quoi? Bon, c'est vrai, on parle du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit agit avec, quand même, je dirais, sa parole. Alors, le chrétien qui ne se nourrit pas, mais il va devenir faible, il va être, tellement faible, il ne va plus pouvoir tenir debout quand il y a la persécution, ou même quand il faut apporter un témoignage. Alors, c'est là où on voit, en effet, l'importance de la parole de Dieu. Hein, Jésus dit, n'est-ce pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis, le psalmiste, dans le psaume 119, qu'est-ce qu'il dit? 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Alors là aussi, si on veut être lumière du monde, le Saint-Esprit, hein, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on peut avoir et après, il y a l'entretien. Vous voyez, en parlant des ampoules. Alors, laissez une ampoule éclairer pendant des mois. Si vous ne faites pas l'entretien, qu'est-ce qui arrive pendant un certain temps? Il y a la poussière. Puis, plus la poussière devient épaisse, plus elle va en fait éclairer de moins en moins. Donc, il faut nettoyer, hein, d'où l'importance, comme j'ai dit, de l'entretien. Pareil, une maison. On parle de l'entretien d'une maison. On ne parle pas simplement de la lumière, parce qu'on a aussi un témoignage à rendre. La poussière un peu partout, hein. Ah, je pense peut-être les femmes qui font souvent le ménage chez nous, en tout cas en Orient, mais si il y a une semaine, elle n'a pas fait le ménage, regardez tout ce qui se passe. Un mois, deux mois, et le chrétien. Certains disent, mais ça fait longtemps que je n'ai pas lu ma Bible. C'est possible? Ça fait longtemps que je n'ai pas témoigné. Mais voilà, c'est clair, le Seigneur, en fait, nous fait confiance. Il nous a choisis pour être ses témoins, pour être, voyez, comme ambassadeur pour Christ. Donc je vois que le temps passe, comme aussi un parfum de bonne odeur. Être témoin de Christ, et chaque fois, il y a cette idée de martyr. Voyez, c'est vrai, aujourd'hui, on a beaucoup de frères et sœurs qui vivent au quotidien le martyr dans les pays musulmans. Mais je suis persuadé, même qu'en France, on peut être persécuté d'une manière morale, d'une manière peut-être autre. Mais là aussi, peut-être certains ne veulent pas témoigner de Christ parce qu'on va se moquer d'eux, peut-être les jeunes à l'école, ou ainsi de suite. Moi, je me rappelle un jour, c'est ma femme, hein, Dominique, qui m'a raconté ça. Il y avait notre fils, le dernier, qui était en train de parler avec ses copains, à l'époque où vous n'avez même pas une dizaine d'années. Et ses voisins, donc un copain disait, « Mais ça ne va pas à la tête, toi, encore tu crois à ces bêtises, qu'il y a un Dieu, tout cela ?» Donc ils savaient qu'on était chrétiens et on avait une église de maison chez nous à l'époque. Et puis comme ça, tout seul, il leur dit, mais qui c'est qui a fait les arbres? Qui a fait les montagnes? Et puis ils sont tués après. Il a commencé à leur dire ce qu'il y avait dans son cœur. Il était persuadé que ce n'est pas fait par hasard. Ouais, donc si nous-mêmes on vit dans nos familles l'amour de Dieu, mais nos enfants vont automatiquement, après, bon, ce n'est pas une garantie, mais aussi savoir transmettre le relais, transmettre aussi donc le message, et en vivant justement comme celle de la terre et lumière du monde. Vous savez, l'image, je dirais, de, aussi donc, de l'ambassade, vous savez, souvent, les pays comme le Liban, à une époque où il n'y avait pas la guerre, il y avait des belles choses hein, qu'on pouvait voir dans les photos, dans les ambassades du Liban, même à Marseille. Il y avait un consulat du Liban à Marseille, il y avait des belles photos qu'on présentait, les plus beaux sites touristiques, on montrait les plus beaux mets, hein, comme nous avons vu dans le reportage, au niveau de la cuisine, hein, à nouveau l'hospitalité, l'accueil. Donc, est-ce que nous, en tant qu'Église, en salière, hein, à nouveau, je reviens à cette salière, mais aussi comme lumière, aussi on est censé être phare. C'est vrai, nous, on est chacun d'entre nous, quoi, une petite lumière. Alors, à nouveau, vous voyez, prenez cette image des bougies, hein, d'une lampe. Alors, plus on est nombreux, plus on va pouvoir éclairer nos voisins, éclairer peut-être des membres de notre foyer qui ne sont pas au Seigneur, nos collègues de travail, mais ensemble. Il y a quelque chose, mes frères et sœurs, que tout le monde peut faire. Certains disent, Antoine, mais moi, je ne peux pas aller vers les musulmans dans ces quartiers, je ne peux pas voyager, je ne peux pas donner des tracts, tout cela. Peut-être, on peut être handicapé d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne peut pas faire des choses, mais un chrétien peut faire une chose au moins, prier. Prier, prier et prier. Que le Seigneur vraiment nous aide à travers la prière, qui est un peu la respiration de notre âme, parce que c'est la source, c'est Jésus. Être celle de la terre à nouveau. Donc c'est lui, hein, avec cette dynamite qui doit exploser en nous pour, en fait, tuer le mal en nous, tuer le péché en nous et nous permettre vraiment de vivre dans la joie, dans la paix et apporter cette bonne nouvelle du Seigneur aux autres. Je vous invite à la prière. Prions. C'est vrai, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire toute notre reconnaissance parce que c'est toi qui as pris l'initiative de quitter ton ciel de gloire, Seigneur Jésus, qui est venu sur cette terre, parce que tu as vu notre misère, tu savais que nous avions besoin de toi, et tu as été jusqu'au bout, même jusqu'à la mort de la croix. Merci, Seigneur, d'avoir tout accompli pour chacun d'entre nous, pour nous permettre de voir vraiment un salut merveilleux, mais en même temps d'être tes témoins. Oui, Seigneur, merci, parce que à travers ton sang précieux, à travers ta parole, à travers le témoignage qu'on peut rendre de toi, nous pouvons vivre la victoire jour après jour. Merci de bénir mes frères et sœurs de cette assemblée, comme des assemblées dans la région et de toute la France et du monde entier. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu reviens bientôt, mais nous avons, Seigneur, aussi besoin de ta présence, de ta grâce, de ton Esprit Saint, de ta parole pour pouvoir, Seigneur, aussi apporter cette bonne nouvelle à tous les perdus, y compris ceux qui sont autour de nous, des Français comme les étrangers. Oui, veuille, Seigneur, aussi équiper mes frères et sœurs de tout ce qu'ils ont besoin pour être des témoins à ta gloire. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.